Session Les Trois Sagesses par le Père Marie-Dominique Philippe à Saint-Jeaudard, deuxième conférence du 11 septembre 1994.
C'est le patrimoine le plus commun de tous les hommes, de l'humanité. Même si de fait, il est très rarement vécu. Parce que, au milieu du temps, il faut bien le reconnaître, à vivre d'une sagesse philosophique. Alors, on peut avoir une petite teinte philosophique, comprendre un peu le langage philosophique, arriver à comprendre un peu ce qu'est l'éthique, la philosophie de l'art, une philosophie politique. Dès qu'on aborde la métaphysique, on voit déjà que c'est beaucoup plus difficile. Mais la philosophie n'est sagesse qu'au terme. Et quand on atteint le terme, il y a un rayonnement sur tout le reste. Et là, on voit l'unité. Avant cela, on voit avant tout la diversité de ces différents paliers philosophiques et ces domaines différents. Quand on n'a pas atteint l'aspect ultime de la sagesse philosophique, on opposera facilement l'éthique avec la philosophie de l'art, ou la philosophie comme l'aspect communautaire avec les exigences de solitude d'une étude philosophique. C'est lorsqu'on a de l'être premier, de celui que les traditions religieuses appellent Dieu, et qu'on cherche à l'adorer, à le contempler, qu'il y a une grande unité qui se fait dans toute la philosophie. Mais c'est très rare, il faut bien se le dire. Et c'est pour ça que l'Église qui sait l'unité, c'est l'importance des études philosophiques et de cette sagesse philosophique, demande à ceux qui sont soumis à l'Église, plus directement, par les vœux, de maintenir cela. Si nous faisons une philosophie avec un souci d'aller le plus loin qu'on peut dans ses études philosophiques, c'est parce que l'Église nous le demande. Il y a une obéissance à l'Église, on comprend très bien pourquoi l'Église nous le demande, mais on sait que c'est qu'on est dans l'obéissance en faisant ça, et c'est beaucoup. Parce que si on est dans l'obéissance, on sait qu'on a des grâces de Dieu pour aboutir à cela. Et que même si on n'est pas génial au point de vue humain, l'obéissance nous permettra de pouvoir enseigner la philosophie, enseigner la métaphysique d'une manière qui soit non seulement très honnête, mais bonne et vraie. Ça nous encourage beaucoup et ça nous aide beaucoup. Là, c'est très curieux, mais c'est l'Église qui confie souvent ça à des religieux. On sait très bien que c'est très difficile dans les séminaires ou dans les universités catholiques de maintenir une philosophie saine, réaliste, quand il n'y a pas un climat religieux. C'est très difficile. Que je connaissais bien en Suisse, à Neuchâtel par exemple, ou à Lausanne, et tous, dès qu'ils comprennent un tout petit peu ce que représente cette recherche de la vérité, reconnaissent qu'il faut un milieu religieux pour maintenir d'une manière aussi, puisque je crois qu'on peut avoir ce désir intense d'une recherche de vérité que s'il y a l'Esprit Saint qui nous y pousse et qui nous fait comprendre la grandeur de l'intelligence humaine, la grandeur de la création d'une âme spirituelle. Mais c'est pour vous montrer que cette recherche de la vérité caractérise, fait partie du caractère propre de notre vocation. La vocation dominicaine implique aussi, hein, je crois, c'est par là qu'il y a quelque chose de commun et de profondément commun avec la vie dominicaine. Recherche de vérité comme faisant partie de la structure même de notre vie et comme caractéristique très nette de ce que doit être notre vie. La recherche de la théologie, de la sagesse théologique, elle est plus restreinte. C'est des chrétiens, des catholiques. Parce qu'il n'y a qu'une vraie théologie, celle de l'Église catholique. Il faut le reconnaître. Et elle est gardée, là encore, dans une vie religieuse. Elle est réclamée pour tous ceux qui désirent être des apôtres, être des prêtres, l'Église se demande. Mais on demande de connaître le catéchisme et on va se ramener à l'exigence de cette connaissance. Or, le catéchisme nous dispose à la sagesse théologique. C'est une disposition, mais ce n'est pas la sagesse théologique. Il faut quand même bien préciser. Et on comprend très bien que si on donnait un livre de sagesse théologique, on serait tout de suite obligé d'opter l'orientation de Thomas d'Aquin ou de sa Bonaventure ou de Bellarmine, de Suarez. Alors là, on voit très bien des options. L'Église dit ses préférences mais ne condamne pas. de ce temps-là obéissaient à l'Église et se sont tus. En souffrant du reste. Parce que quand on est un peu engagé dans une certaine théologie, on voit tout de suite combien il peut y avoir des ravages d'ordre pratique, d'attitude pratique dans l'ordre de la spiritualité qui sont assez terribles. Et c'est important de comprendre cela. Mais on comprend très bien l'attitude miséricordieuse de l'Église qui ne condamne pas et qui laisse libre. Et plus l'Église avance, plus on a l'impression que l'Église laisse aux chrétiens et aux théologiens une très grande liberté dans leur recherche. Et l'Église intervient que quand vraiment on touche dogme, à l'enseignement pratique de l'Église, l'enseignement actuel de l'Église, je veux dire. Alors là, l'Église dit non, vous ne pouvez pas, vous exagérez, vous allez trop loin. Mais si ces théologiens restaient à mi-côte, sans aller jusqu'au bout, vous savez que c'était le dialogue qui a eu lieu entre certains qui ont été condamnés, qu'une, entre autres, avec d'autres qui n'ont pas été condamnés, en disant « Je suis votre méthode, c'est vous qui me l'avez apprise, mais je vais jusqu'au bout, tandis que vous êtes restés à mi-côte. » Ça a été le dialogue entre Hans Kuhn et Rahner. Il a dit ça à Rahner. Et quand Rahner a dit ce qu'il y a de nouveau dans la théologie moderne, c'est remplacer la métaphysique par l'anthropologie, Hans Kuhn a fait ça. Alors évidemment, l'autre aurait pu répondre, quelle anthropologie avez-vous pris? Et c'est ce qu'il aurait dû répondre. Si je prends une anthropologie purement psychologique et une sociologie purement psychologique, j'aboutirai à des positions qui sont contraires à l'Église. Ça, c'est bien évident. Puisqu'il n'y a plus de finalité. Il n'y a plus que le conditionnement, il n'y a plus que l'adaptation. Il faut s'adapter. L'inculturation poussée à l'extrême. Donc, il y aurait ce qu'on a entendu il n'y a pas si longtemps. Nous avons deux théologies qui ne sont pas compatibles l'une avec l'autre. Vous avez la théologie de l'Église et liée à celle du pape. Et nous avons la théologie tchadienne. C'est-à-dire que nous faisons une théologie propre à ce pays. Comme si c'était encore une théologie. Et on confond très souvent aujourd'hui théologie pastorale. Dans la pastorale, on doit évidemment parler le langage des gens qui sont là et autant que possible s'adapter. Mais on sait très bien que cette pastorale dépend d'une théologie et on sait jusqu'où l'adaptation peut aller. C'était ce que Paul VI avait remarqué. Oui, très bien, vous adaptez, mais faites attention. C'est le monde que vous devez convertir au Christ. Et ce n'est pas le monde qui doit vous convertir à lui. Et si vous vous adaptez de trop et que vous perdez votre finalité, vous aurez ça. Donc l'Église est très lucide là-dessus. Et on voit très bien cela. Il y a une grande liberté que l'Église laisse aux recherches. Mais ça ne veut pas dire nécessairement que l'Église accepte toutes ces recherches. Et ce serait très difficile d'arrêter une recherche sans qu'elle aboutisse à une conclusion fausse. Vous voyez, pour qu'on comprenne ce qu'il ne comprendrait pas. C'est toujours très intéressant d'assister avec des théologiens qu'on aime bien et qui sont des points de vue différents et de voir cette liberté que laisse l'Église. Et en même temps, on voit que certaines positions théologiques aboutiront nécessairement à quelque chose que l'Église ne pourra pas accepter. Alors on aurait la tentation de dire, mais arrêtez tout de suite. Oui, mais faites attention. Les théologiens, en tant que théologiens, ne sont pas des religieux. On a déjà pas mal de peine à dire un religieux. Ne continuez pas comme ça, vous êtes en train de dégringoler au point de vue spirituel. Celui qui dégringole, il ne s'en aperçoit pas. Et donc quand on lui dit, allez autre part, là vous serez mieux, vous pourrez vous refaire. Il s'accepte très difficilement. C'est difficile l'obéissance. Quand on commence à avoir son orientation propre et qu'on est persuadé que c'est dans ce sens-là qu'on doit aller, il faut vraiment que le point de vue religieux dépasse tout cela, tout le temps, pour rester souple au point de vue de l'obéissance. Un théologien comme théologien, oui, c'est-à-dire quelqu'un qui recherche d'aller le plus loin possible dans cette recherche de la vérité, a beaucoup de peine d'obéir pour changer son fusil d'épaule, c'est-à-dire accepter que la méthode qu'il a prise est une méthode qui conduit à l'erreur. Beaucoup de peine. Nous avons, nous, choisi et opter de suivre Thomas d'Aquin. Quelqu'un qui ne veut pas suivre Thomas d'Aquin, il se met en dehors de lui-même. De lui-même. C'est une option que l'Église permet. Et même l'Église est très contente. Quand j'ai dit ça au début, le Saint-Père a dit très bien, très bien. Il n'y en a plus beaucoup qui font ça. Alors, faites-le avec générosité. C'est vrai, il n'y en a plus beaucoup qui vraiment optent délibérément d'être formés à la théologie scientifique de Thomas d'Aquin. Ça ne veut pas dire qu'il faut le répéter. Non, parce que c'est bien plus important. Et nous ne disons jamais que la sagesse philosophique et la sagesse théologique sont des systèmes. Mais voyez, c'est important de voir que c'est la sagesse théologique, selon Thomas d'Aquin, parce que là, c'est Thomas d'Aquin. Et depuis, l'Église maintient cela comme ce qu'il y a de plus proche de la parole de Dieu. place de l'Esprit Saint, vous comprenez? Pour Thomas d'Aquin, il n'y a qu'un seul directeur. C'est l'Esprit Saint. Director et rector. C'est l'Esprit Saint. Il est celui qui dirige notre vie. Et celui qui dirige notre intelligence, le recteur. Et on est à l'école de l'Esprit Saint. C'est pour ça que dans notre vie mystique, on est toujours seul avec Dieu. Il n'y a pas d'école mystique. Non. Non. Il n'y a pas une cinquième année ou une sixième année de théologie. Ou alors, on dira, ça, c'est pas du mystique. Non. On maintient la solitude pour favoriser la contemplation, pour favoriser ce lien d'intimité profonde avec le Père, comme enfant bien-aimé du Père sous le souffle de l'Esprit Saint. Et on maintiendra ça. Mais on ne peut pas dire, voyez, que pour savoir ce qu'est la vocation Saint-Jean, c'est tel type de contemplation. Non. C'est la contemplation de l'Esprit Saint qui nous souffle, qui nous aide, qui nous conduit. C'est l'Esprit Saint qui est le directeur de notre âme. Et le prêtre n'est là que comme un instrument de l'Esprit Saint. C'est pour ça que rien n'est plus pauvre que la paternité spirituelle. Puisqu'il faut être docile à l'Esprit Saint. Tandis que la paternité intellectuelle, d'être maître dans l'orientation intellectuelle, a quelque chose de beaucoup plus personnel. Et au point de vue théologique aussi. C'est très important, vous voyez, de comprendre que c'est cette docilité à l'Esprit Saint, donc cette sagesse mystique qui nous unit à toute l'Église. On fait partie du corps mystique. Et on fait partie du corps mystique en étant tout proche du cœur, tout proche de l'intelligence. C'est pour ça qu'il ne faut jamais opposer, voyez, en disant « Ah ça, c'est une contemplation beaucoup plus intellectuelle. Ça, c'est la contemplation du cœur. » Non, non. Toute contemplation provient du don de sagesse qui implique la lumière et l'amour, qui implique le point de vue de l'intelligence et de la volonté. Ça implique les deux. Mais c'est sûr, l'Esprit Saint est le maître, le directeur. Et il peut très bien orienter quelqu'un vers un aspect beaucoup plus de lumière et un autre vers un enfouissement plus dans l'amour. Mais il n'y a pas d'opposition. C'est le même Esprit Saint qui conduit. En faisant d'un côté du don de sagesse, il y a le don d'intelligence. Ou au contraire, en faisant que le don de sagesse soit plus lié au don de crainte. Quand la sagesse est plus liée au don de crainte, alors c'est l'aspect affectivité qui constamment l'emporte. Quand le don de sagesse s'exerce plus avec le don d'intelligence, c'est beaucoup plus alors le regard, le point de vue intellectuel, mais assumé par l'amour et au niveau divin qui l'emporte. Il y a des modalités infinies dans la contemplation. Et chaque jusque dans la philosophie. L'Esprit Saint veut que nous soyons intelligents pour Dieu. Et l'Esprit Saint veut que nous soyons intelligents pour la recherche de la vérité. De sorte que l'Esprit Saint, par le don d'intelligence, par le don de sagesse, nous aide à être plus philosophes. L'Esprit Saint sait très bien que la philosophie s'appuie sur notre expérience humaine et ne fait pas appel à autre chose, à une autorité divine. Mais l'Esprit Saint nous apprendra dans une expérience à voir ce qu'un autre ne voit pas. Vous voyez, dans l'Écriture, on voit ça admirablement. Quand on voit le petit Ismaël qui crie, et sa mère Agar qui est là à côté, quand elle est fatiguée d'entendre le cri de l'enfant, elle s'écarte. Et Dieu écoute le cri de l'enfant et vient réveiller la mère pour lui montrer qu'il y a un puits qu'elle n'a pas vu. C'est comme ça. Même pour les textes hégéliens, il y a des puits qu'on ne voit pas à première lecture et qu'on découvre progressivement. Et c'est l'Esprit Saint qui nous conduit. Dans la lecture de Thomas d'Aquin, c'est comme ça. On découvre toujours quelque chose de nouveau. Et alors, a fortiori, dans l'Écriture sainte, dans l'Évangile de Saint Jean, dans l'Apocalypse. Vous voyez, l'action de l'Esprit Saint pénètre tout ce qui est en nous, et spécialement notre recherche de la vérité, spécialement notre recherche de la vérité au niveau théologique. C'est sûr, ça. Mais l'action de l'Esprit Saint a sa propre finalité en elle-même. Sous l'action de l'Esprit Saint et du don de sagesse, je ne recherche pas quelque chose d'autre que ce que le don de sagesse me dit. Et comme je vous disais ce matin, je recherche le sens de cette filiation à l'égard du Père. Le sens de cette dépendance en présence de la lumière de la lumière. Et je recherche ce que représente telle ou telle parole de l'Écriture et cette filiation à l'égard de l'Esprit Saint, filiation toute d'amour, qui est une spiration d'amour. Et c'est là où je vois que cette action de l'Esprit Saint transforme toute ma vie. Mais l'Esprit Saint ne veut jamais, si on peut le faire, qu'on cesse le travail. C'est pas parce que l'Esprit Saint m'éclaire que je ne dois plus travailler. Non. Mais l'Esprit Saint éclaire en mesure, dans la mesure même où nous travaillons, pour montrer notre bonne volonté, que nous ne perdons pas notre temps et qu'on est pris par des choses qui nous empêchent quelquefois de travailler. La charité fraternelle pour aider un frère, il faudrait regarder l'exercice de la charité fraternelle sous l'influence du don de sagesse et du don de piété. admirable.